Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le premier tour de l'élection présidentielle dimanche prochain en France. Quels engagements des candidats pour la Palestine? La plateforme des ONG françaises pour la Palestine leur a envoyé un questionnaire sur plusieurs enjeux liés à la défense des droits des Palestiniens. Pierre Motin, responsable plaidoyer de cette plateforme, sera l'un de nos invités. Le manque d'huile et de farine en Tunisie, le pays qui ne reçoit plus de blé d'Ukraine, son principal fournisseur. Nous écouterons Hassen Zarghouni, économiste, statisticien, directeur du bureau d'études Sigma. Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de Turquie à Tunis, une mesure pour protester contre ce qu'elles considèrent comme une ingérence turque après des propos du président Recep Tayyip Erdogan suite à la dissolution du Parlement tunisien. Le Conseil de l'Europe dénonce le refoulement généralisé des réfugiés aux frontières européennes. Il demande aux États membres de mettre fin à ce qu'il qualifie de violation des droits humains. L'ambassadeur de Russie à Paris, convoqué par le ministre français des Affaires étrangères, en cause un tweet jugé indécent de l'ambassade sur les exactions commises dans la localité ukrainienne de Boutcha. La lutte contre l'épidémie de Covid-19, la deuxième dose de rappel de vaccin, également appelée quatrième dose, est désormais ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ce sera dimanche prochain en France, le premier tour de l'élection présidentielle. Quels engagements des candidats pour la Palestine? La plateforme des ONG françaises pour la Palestine leur envoyait un questionnaire sur plusieurs enjeux liés à la défense des droits des Palestiniens. Entretien avec Pierre Motin, responsable plaidoyer de cette plateforme.
C'est une activité qu'on a tous les 5 ans à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. On demande aux différents candidats à la présidentielle quels sont les engagements sur différents points concernant le respect des droits de l'homme et du droit international en Palestine. C'est quelque chose qu'on fait aussi pour les élections européennes, par exemple.
Qui sont les candidats qui vous ont répondu?
Nous avons 3 candidats qui nous ont répondu. Il s'agit de Yannick Jadot, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Nous avons envoyé des questionnaires à tous les candidats, mais ce sont les 3 seuls qui ont répondu à nos questions.
Et quelles sont les propositions marquantes des différents candidats?
Les 3 candidats qui nous ont donné leur réponse, donc messieurs Mélenchon, Jadot et Roussel, sont assez d'accord sur leur proposition par rapport à la Palestine, à part sur la question de la reconnaissance d'un régime d'apartheid israélien à l'encontre du peuple palestinien. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel reconnaissent l'existence d'un crime d'apartheid israélien, mais Yannick Jadot préfère ne pas utiliser ce terme pour décrire la politique d'Israël, tout en estimant que la loi israélienne de juillet 2018 sur l'état-nation du peuple juif inscrit dans le droit une inégalité de fait et une sous-citoyenneté des citoyens israéliens non juifs, ce qui n'est pas acceptable selon lui. Ensuite, sur les autres questions qu'on a posées, notamment la question de la reconnaissance de l'État palestinien, la demande de la levée du blocus de Gaza, la question de la protection des libertés associatives, mais aussi la question des 6 ONG palestiniennes déclarées terroristes en octobre dernier, les 3 candidats qui nous ont répondu sont d'accord avec les engagements qu'on leur proposait.
Oui, sur la protection des libertés associatives, des organisations de la société civile, vous nous dites que ces 3 candidats sont sur la même longueur d'onde.
On se rend compte que sont tous les 3 d'accord pour dire que critique du gouvernement israélien n'équivaut pas à antisémitisme. Il y a une vraie culture de la défense de la liberté d'expression, on sent, pour ces 3 candidats. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, souligne le soutien qu'il avait apporté au président de l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand Heilbronn, lorsqu'il avait été arrêté en mai 2021 lors des récents troubles en Palestine.
Alors, les autres candidats ne vous ont pas répondu, mais vous avez rassemblé leur prise de position sur ces questions.
Tout à fait. On a rassemblé leur prise de position, notamment dans leur programme ou lors de prise de position dans les médias. Alors, il y a certains candidats qui ne parlent absolument pas de la Palestine. Je pense à Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Jean Lassalle ou Éric Zemmour. Ensuite, il y a plusieurs candidats qui se déclarent solidaires du peuple palestinien et de la résistance du peuple palestinien, notamment Philippe Poutou et Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, tandis que certains candidats plus de droite ont une ligne dans leur programme pour demander qu'il y ait un accord de paix entre Israël et la Palestine. Je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, qui considère que si la sécurité d'Israël est un principe intangible pour lui, la légitimité de l'État palestinien l'est aussi, et qui demande donc qu'on recherche des conditions d'une paix durable. Il y a aussi Valérie Pécresse, qui indique qu'elle souhaite travailler à un processus garantissant la sécurité d'Israël et un espoir pour le peuple palestinien, conformément aux résolutions des Nations Unies.
Vous avez souligné que vous interpelliez les candidats à la présidentielle lors de chaque élection. Notez-vous une évolution par rapport à il y a 5 ans? Quel type d'évolution?
On remarque que dans les débats qu'il y a eu tout au long de cette campagne 2022, campagne qui est tout de même, on peut le dire, assez bizarre, c'est une sorte de campagne éclair qui a été beaucoup marquée par la question de la guerre en Ukraine, qui a beaucoup occupé les esprits pour tout ce qui est plan international, on voit qu'il y a beaucoup moins de prise de position sur la Palestine. Le dossier palestinien semble beaucoup plus éloigné des préoccupations des candidats. Cela étant dit, nous avons eu plus de réponses de la part des candidats qu'en 2017. En 2017, nous avions eu uniquement une réponse de la part de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, alors que cette année, nous avons eu des réponses de la part de l'équipe de M. Mélenchon, M. Roussel et Yannick Jadot.
Le fait que ce sujet soit moins évoqué, c'est uniquement, selon vous, à cause de l'actualité internationale en Ukraine, ou est-ce parce qu'il s'agit d'un sujet sensible pour les candidats?
Certainement les deux. C'est un sujet sensible. Les campagnes de délégitimation de la solidarité avec les Palestiniens qui visent à rapprocher les critiques du gouvernement israélien avec l'antisémitisme font qu'on voit qu'il y a beaucoup de candidats qui ne souhaitent pas parler de la Palestine en se disant voilà que c'est un sujet explosif, dangereux, clivant, alors que pourtant il s'agit uniquement de respect du droit international. Mais on voit aussi que la question palestinienne occupe moins les esprits qu'auparavant. Malheureusement, on sent une certaine fatigue auprès des partis politiques, des décideurs qui considèrent que la Palestine, malheureusement, est une sorte de cocotte minute qui, tous les 5 ans, va déborder et qui mérite peu d'attention entre-temps. C'est bien sûr quelque chose qu'on déplore.
Pierre Motin, responsable plaidoyer de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Le Conseil de l'Europe dénonce le refoulement généralisé des réfugiés aux frontières européennes. Il demande aux États membres de mettre fin à ce qu'il qualifie de violation des droits humains. La Croatie, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Grèce, Chypre, la Turquie, la Bulgarie ou encore la France et l'Espagne sont vivement critiqués pour renvoyer dans les pays voisins les migrants qui tentent d'entrer sur leur territoire. Le document s'appuie sur des rapports d'ONG qui ont dénombré entre 50 et 130 procédures de refoulement par jour pendant l'été 2020. L'Arménie et l'Azerbaïdjan lancent les préparatifs pour les pourparlers de paix. Ces deux pays du Caucase qui se sont affrontés en 2020 pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Ce conflit qui a fait plus de 6500 morts s'est soldé par une défaite de l'Arménie qui a dû rétrocéder d'importants territoires qu'elle contrôlait depuis une première guerre victorieuse au début des années 90. Les conséquences de la guerre en Ukraine, en Tunisie, le pays manque notamment d'huile et de farine. Les prix ont fortement augmenté. Entretien avec Hassen Zarghouni, directeur du bureau d'études Sigma.
Les ménages ressentent, c'est que les produits ne sont pas disponibles à tout moment et en quantité. Mais typiquement, quand ils vont dans une boulangerie, on peut leur dire que le pain n'est pas prêt, il sera prêt dans 2 heures ou dans 3 heures. Et ça, on n'en avait pas l'habitude. Ensuite, dans les grands magasins, dans les supermarchés, quand ils y vont, on leur limite le nombre de kilos de farine ou de semoule ou d'huile à acheter. Les épiceries ne disposent pas des quantités classiquement connues par les Tunisiens, c'est-à-dire un ravitaillement régulier, un approvisionnement relativement fluide et continu. Aujourd'hui, on a quelques coupures. Maintenant, est-ce qu'on en est au point où il n'y a plus ce type de produit du tout? Non. Par moment, oui. Par endroit, oui. Mais de là à dire que le produit n'existe plus, non. Aujourd'hui, c'est encore limité. Mais on sent bien que les choses ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un resserrement. Tant que la crise russo-ukrainienne, où cette guerre perdure, et tant que les prix au niveau international restent à des niveaux trop élevés par rapport au budget public prévu par le gouvernement tunisien. C'est une, en fait, chaîne.
Et vous évoquez une forme de rationnement dans certains magasins ?
On ne peut pas dire de rationnement, mais plutôt, si vous voulez acheter 10 kilos de farine, on te dit non, vous allez partir avec 3 ou 4. En fait, les gens, sachant qu'il y a des problèmes, il y a des tensions sur ce type de produits, augmentent leur consommation pour pouvoir les stocker chez eux. Et donc, à partir de là, ils créent par cette attitude les conditions de la pénurie. Alors, les commerçants sont incités à faire de manière à ce que les gens achètent les produits avec des quantités raisonnables pour des consommations classiques pour les quelques jours qui suivent.
Et ce manque de produits, cela a bien entendu un impact sur le prix.
Tout à fait. Les prix ont augmenté de toutes les manières. Certains produits dits de base, que sont la farine, le pain, tous les produits dérivés du blé, sont en Tunisie à prix, pour la majorité d'entre eux, à prix homologué, des prix fixés par l'État. Certains autres, hein, par exemple la baguette sophistiquée, la baguette parisienne au four, au campagnard, ou le pain campagnard, ça c'est des produits qui ne sont pas compensés par l'État, mais dont la farine est compensée. Donc en fait, dans la chaîne de tout ce qui est céréales et dérivés du blé, on trouve toujours l'empreinte de l'État dans la mesure où l'État compense ou subventionne ce type de produits. Donc c'est pour ça que l'État est très regardant par rapport à ça. Mais il y a eu augmentation de prix des baguettes ou du pain qui sont en dehors de la nomenclature classique, c'est-à-dire la simple baguette ou le simple pain. Ensuite, bien sûr, augmentation de tout ce qui est lié aux graines, hein, l'huile de graines. Il y a deux catégories d'huile de graines. Il y a les huiles de graines qui sont compensées par l'État, subventionnées. C'est des graines triturées dans les usines ici en Tunisie, et où l'État fixe les prix. Ensuite, vous avez les huiles de meilleure qualité, dont les prix sont libres, et ceux-là voient leur prix augmenter effectivement d'une manière drastique. Même l'huile d'olive a vu son prix augmenter de plus de 20% en un mois. Vous avez aussi les œufs qui dépendent des poules, et les poules dépendent du maïs et du soja, et tout ce qui est composé, enfin la nutrition animale a vu ses prix augmenter. Donc c'est une chaîne. Les Tunisiens aujourd'hui sont sans la compensation, sans la subvention de l'État, ils auraient vu les prix augmenter encore plus davantage. Mais en tout cas, globalement, en un mois, on a vu une inflation des produits alimentaires voisinant les 9%. Donc il y a certains produits qui culminent à 20%, qui sont typiquement liés à cette notion de graines ou de céréales, et qui ne sont pas compensés ou subventionnés par l'État. Le fait que ces produits-là ne sont pas approvisionnés d'une manière continue, comme on en a eu l'habitude, renforce en fait cette tension même psychologique, symbolique, parce que le pain est très important dans nos habitudes culinaires, l'huile aussi. Nous sommes très méditerranéens en cela, comme les Égyptiens, comme les Algériens, nous sommes très gros consommateurs per capita de pain. Nous en consommons jusqu'à 250 kilos par an par habitant. Les pâtes alimentaires sont très importantes dans nos habitudes culinaires en Tunisie. Nous sommes deuxième pays au monde, après l'Italie, en consommation par an par habitant. Et puis, nos habitudes culinaires donnent une place aussi centrale à l'huile alimentaire. Et donc, à partir de là, nos foyers tunisiens sont vraiment très secoué par ces deux phénomènes. D'un côté, l'augmentation du prix de certains produits liés à l'huile ou au blé et dérivés. Et puis, de l'autre côté, des problèmes d'approvisionnement récurrents que connaissent les points de vente classiques d'alimentation générale.
Hassen Zarghouni, économiste, statisticien, directeur du bureau d'études Sigma. Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir convoqué l'ambassadeur de Turquie à Tunis, une mesure pour protester contre ce qu'elles considèrent comme une ingérence turque après les propos du président Recep Tayyip Erdogan, critiquant la dissolution du Parlement, une dissolution annoncée le 30 mars dernier. Le président turc avait qualifié cette décision du président tunisien de coup à la volonté du peuple tunisien et de tâches sur la démocratie. Au 43e jour de l'agression russe en Ukraine, Kiev demande davantage d'armes aux pays de l'OTAN. J'appelle les pays de l'OTAN à mettre de côté leurs hésitations. Aujourd'hui, les armes servent la paix, selon les mots du ministre des Affaires étrangères ukrainien. L'ambassadeur de Russie à Paris a été convoqué par le ministre français des Affaires étrangères. En cause, un tweet jugé indécent de l'ambassade sur les exactions commises dans la localité ukrainienne de Boutcha. L'ambassade a diffusé un tweet depuis retiré, intitulé « Plateau de tournage » et accompagné d'une photo montrant un attroupement de journalistes dans ce qui semble être une rue de Boutcha, suggérant que les massacres de civils commis dans cette ville étaient une mise en scène. Le Covid-19 augmente le risque de développer des caillots sanguins graves jusqu'à 6 mois après l'infection. C'est ce qu'indique une étude suédoise. Elle révèle un risque accru de thrombose veineuse profonde, un caillot sanguin dans la jambe, jusqu'à 3 mois après l'infection, et d'embolie pulmonaire, un caillot de sang dans les poumons, jusqu'à 6 mois après. Ce risque est plus élevé chez les patients atteints de comorbidité et ceux atteints d'un Covid-19 sévère. La deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19, également dite quatrième dose, est désormais ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elle est disponible pour ces personnes dont la dernière injection remonte à plus de 6 mois et uniquement sur la base du volontariat. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, rappelle que l'épidémie n'est pas terminée avec en moyenne 135 000 cas par jour en France. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Et si on en parlait à 19h, le thème de cette émission, élection présidentielle 2022, l'extrême droite peut-elle l'emporter? Alexis Bachelet recevra Stewart Shaw, directeur opinion politique chez Via Voice, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.